Bonjour à tous et à toutes. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ces paroles sont celles de l'apôtre Jean dans sa première lettre adressée aux frères de l'Église. Dieu est lumière, Dieu est saint, et il n'y a point en lui de ténèbres. Cette lumière s'est manifestée au monde en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais le monde a rejeté Christ, notre lumière. Jésus dit à ses disciples en Jean 16, verset 20, au sujet de sa mort imminente, « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. » Le monde s'est réjoui de la mort de Jésus, car le monde n'a pas voulu de la lumière. C'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Mes frères et sœurs, vous avez reçu la lumière de Dieu dans vos vies par Jésus-Christ. Le jour où il vous a fait passer de la mort à la vie. Cette lumière que le monde n'a pas voulu, Dieu souhaite que vous y demeuriez afin que votre communion avec le Père et le Fils soit parfaite. Je vous invite à lire aujourd'hui dans la première lettre de Jean au chapitre 1. Et nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 10 et même jusqu'au chapitre 2, verset 2. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 10 et jusqu'au chapitre 2, verset 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors l'auteur de cette lettre est Jean. Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Jésus fit de lui un des 12. Il accompagna Jésus dans son œuvre et une place particulière dans le ministère de Jésus. Proche de Jésus, il fut celui qui assista à la résurrection de la fille de Jaïrus, assista à la transfiguration et à l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Lors du dernier repas, il resta tout proche du Seigneur. Après la mort et la résurrection de Jésus, au lendemain de la Pentecôte, Jean s'associe à Pierre dans un grand travail missionnaire. Il fut avec lui emprisonné et confessèrent leur foi devant les autorités juives. Jean est un homme qui aimait profondément le Seigneur. Il est un homme qui aimait profondément Jésus-Christ. 5 livres du Nouveau Testament lui sont attribués. Le 4e évangile, les 3 épîtres et l'Apocalypse qui porte son nom. Et la première lettre de Jean ne contient ni adresse ni salutation, mais nous savons qu'il connaît personnellement ses destinataires. Il emploie des mots affectueux pour s'adresser à eux et il leur parle des dangers auxquels ils sont exposés. Cette lettre s'adresse donc d'une manière générale à l'Église ou à un groupe d'Églises ou à des chrétiens qu'il connaît bien et qui sont menacés de dangers précis. Et Jean les met en garde. Le but de sa lettre, comme il le dit au chapitre 2, verset 24, « Tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. » Tenez-vous soigneusement à cet enseignement. Et cet enseignement, c'est le message de Jésus-Christ qu'ils ont reçu et qu'ils ont entendu. Le principal danger pour les chrétiens à qui s'adresse Jean est ceux qui nient les fondements de la foi en Jésus-Christ. Ils prétendent être en communion avec Dieu, l'avoir vu, l'avoir entendu, qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils demeurent en lui dans sa lumière, mais pour eux, Jésus n'est pas le Christ. Pour eux, Jésus n'est ni le Christ, ni le Fils de Dieu. Et l'apôtre Jean dénonce ceux qui prétendent cela et qui prétendent allier communion avec Dieu à une vie dans le péché. Ceux-là ne sont point de Dieu parce que sa parole n'est point en eux. Le passage que nous venons de lire est le fondement même de tout l'épître. Il est à la fois un encouragement pour rassurer ceux qui sont fondés sur la foi en Jésus-Christ et une mise en garde sérieuse contre les fausses doctrines. Et si nous pouvons découper notre passage, je pourrais voir 2 grandes parties. L'introduction ou prologue qui rappelle la vie manifestée en Jésus-Christ du verset 1 à 4. Et ce que je pourrais dire, qualifié de marche nécessaire dans la lumière de Dieu pour le chrétien, du verset 5 jusqu'à la fin. Ce que nous lisons dans cette introduction, qui est tellement puissante, que je voudrais vous relire, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la parole de vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Dans cette introduction, Jean nous parle du fondement de la bonne nouvelle qui a été annoncée. Tout l'enseignement qui suit cette épître découle de cette vérité annoncée dans les 4 premiers versets. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir la manière dont Jean fonde tout son enseignement. Tout d'abord, Jean décrit un message qui part d'en haut jusqu'en bas, c'est-à-dire de Dieu vers l'humanité, vers les hommes, ce qui était auprès de Dieu et qui est venu jusqu'à nous. La parole de vie était dès le commencement. C'était la vie éternelle qui était auprès du Père. Elle s'est manifestée pour nous. Les apôtres l'ont vue et en sont les témoins. Les apôtres ont annoncé cette vie éternelle manifestée. Ceux qui l'ont reçue, c'est ceux qui l'ont gardé. Nous avons cette proclamation de la vie qui nous a été donnée par Dieu. Ce que nous avons vu et annoncé, afin que votre joie soit parfaite. À ce titre, Leur joie est parfaite. Elle est parfaite parce qu'ils sont dans la vérité. Ils sont dans la vérité parce qu'ils ont fondé leur espérance sur cette vérité qui a été accomplie. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir de cette vérité accomplie. Et quelle est cette vie éternelle qui a été manifestée au monde ? Cette vie manifestée est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Elle était auprès du Père et elle nous a été envoyée. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Jésus est la vie éternelle qui était au commencement auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Ce que proclame Jean ici dans son épître, il l'a déjà proclamé. Il l'a déjà proclamé dans l'évangile qui porte son nom. Et si vous regardez le chapitre 1 de l'évangile de Jean, du verset 1 au verset 14, nous avons en détail toute la proclamation de la parole de vie. Au premier verset, il nous est dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu ». Et au verset 14, nous lisons « La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». Ce que Jean nous proclame, c'est la vie manifestée en Jésus-Christ. Et que ce soit dans son épître ou dans son évangile, Jean nous fait considérer de la même manière la puissance révélée de Jésus-Christ, lui qui était dès le commencement. Et Jean le décrit toujours avec une puissance et une profondeur extrêmes. C'est quelqu'un qui aimait profondément le Seigneur, qui vivait en totale fusion avec le Seigneur. Jean le désigne par tous ces termes. La parole de vie, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour les hommes. Jamais là, il ne donne le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il l'identifie à la vie, à la parole de vie. Ce que nous dit Jean ici, il nous révèle que Dieu a voulu que nous connaissions cette vie. Il en parle ainsi parce qu'il veut nous faire comprendre que Dieu a voulu que nous connaissions cette vie pour nous. Cette vie qui était auprès de lui, il a voulu que nous la connaissions. Et nous l'avons connue au travers de Jésus-Christ, son Fils. À la fin du prologue de l'évangile de Jean, au verset 18, donc Jean 1, verset 18, nous lisons « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père » est celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ est celui qui nous a fait connaître Dieu. Et les apôtres en sont les témoins, au travers de trois choses que Jean nous témoigne. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu et ils l'ont touché. Ceci est le témoignage que la vie éternelle s'est manifestée au milieu des hommes par Jésus-Christ, son Fils. La vie a été manifestée au milieu des hommes afin de la rendre accessible aux hommes. Jean attire notre attention sur ce point fondamental de l'Évangile. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique fait homme pour que nous soyons sauvés. Et il nous fait considérer que Jésus-Christ est la vie éternelle manifestée à l'humanité, cette vie qui était dès le commencement. Jésus-Christ nous a fait connaître Dieu. Tout l'enseignement qui suit est basé sur ce fondement. Jésus-Christ nous a fait connaître le Père. Et d'ailleurs, Jean, dès le verset 5, nous fait considérer cela. Il nous dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, la nouvelle que Jésus-Christ nous a permis de considérer et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Personne d'autre ne pouvait nous faire considérer cette réalité sinon Jésus-Christ qui est la lumière. Dieu est lumière. Le message qu'annoncent les apôtres ne vient pas de fables habilement conçues, comme dirait Pierre, ou d'une intelligence purement humaine, mais ce qu'annoncent les apôtres, ils le tirent du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui leur a révélé. Il leur a révélé par sa vie, par son enseignement, par son œuvre accomplie. La personne de Christ nous a révélé que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Et si nous lisons la Bible, nous voyons cette réalité de la lumière de Dieu. Il n'y a point en lui de ténèbres. La lumière représente la vérité, la connaissance, la sainteté de Dieu. Les ténèbres sont par contre l'ignorance, le mensonge, les ténèbres, le péché, pardon. Dans son essence même, Dieu est lumière. Il est le Dieu trois fois saint. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir, pour accepter le mal ou pour le partager, nous dit sa parole. Il n'y a pas de place auprès de lui sans sainteté. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons au chapitre 6, du verset 1 à 7, cette sainteté dans la gloire de Dieu. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à toi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi ». L'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Nous le voyons. L'Éternel Dieu est le Dieu trois fois saint. Il n'y a rien de comparable à sa sainteté. Seulement ce qui est saint peut entrer dans la gloire de Dieu et donc dans la vie éternelle. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, nous dit Apocalypse 21, verset 27. N'entreront dans la gloire de Dieu que ceux qui ont été trouvés saints. Heureux et saints, donc, sont ceux qui prendront part à la première résurrection. Ce qui caractérise l'humanité, c'est une position de souillé, de non-saint, d'impur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors qui sont ces saints? Qui sont ces saints qui entreront dans la gloire de Dieu? Qui entreront dans la lumière de Dieu? Paul nous dit « Rendrez grâce à Dieu ». Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est vous, ce terme « vous » qu'emploie ici Paul, c'est ceux qui ont été rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Ce sont ceux qui ont été justifiés en Jésus-Christ. Ceux-là sont ceux qui ont été rachetés par son sang à la croix. Ceux-là ont été rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Jésus-Christ est la lumière du monde qui nous a fait connaître le Père. C'est par lui que nous avons la lumière. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Dieu est lumière. Et Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vraie lumière, la connaissance de Dieu dans nos vies. Mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, nous savons que nous aussi, nous sommes appelés à devenir et à être des enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde, disait Jésus. Vous êtes devenus des fils de lumière. C'est votre titre. Vous êtes des fils de lumière. Le chrétien doit donc rayonner dans sa vie comme un fils de lumière. Voilà ce à quoi vous êtes appelés. Et Paul disait à l'église de Rome, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Jean nous fait considérer avec puissance la nature même de Dieu. L'essence même de Dieu, c'est d'être la lumière. Et s'il fait cela, c'est parce qu'il veut que nous le considérions nous aussi pour notre propre vie. C'est une importance capitale pour notre vie. Et Jean va s'attacher à dire en quoi consiste cette marche nécessaire dans la lumière. Si Dieu est lumière, il n'est pas possible pour celui qui se maintient dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le péché, de se dire de Dieu, de le connaître personnellement. Il est impossible d'être en communion avec lui. Ce n'est tout simplement pas possible. Et Jean le proclame. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Jean marque ici d'une manière forte, avec puissance, comme il le fait dans le reste de l'Épître, et comme Pierre d'ailleurs le fait dans son Épître, la séparation qu'il y a entre ce qui est du péché de ce qui est de la lumière, c'est-à-dire de la vérité. Prétendre être en communion avec Dieu et marcher dans les ténèbres est une contradiction et un mensonge. Proclamer être en communion avec lui et marcher dans les ténèbres de l'erreur, de l'ignorance, du péché sont des choses qui sont totalement incompatibles. Ces choses sont incompatibles car l'essence même de Dieu, c'est la sainteté. Marcher dans les ténèbres, cela veut dire beaucoup. C'est vivre dans le péché. D'ailleurs, certaines de nos Bibles traduisent par « vivre dans le péché ». C'est une vie permanente dans le péché. C'est pratiquer le péché. C'est finalement l'avoir comme règle de vie. C'est suivre les sentiers du péché et non celui de la vie en Jésus-Christ. À ce titre, c'est être encore esclave du péché. Et cela n'est pas la marque du chrétien. Jean explique ce qu'est réellement être en communion avec Dieu. Vous voulez être en communion avec Dieu? Vous vous dites être en communion avec Dieu? Eh bien, marchez dans la lumière, en opposition à marcher dans les ténèbres. Marchez dans la lumière, c'est-à-dire vivre dans la vérité, se laisser transformer, grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Lui qui est saint ne fera connaître le Père qui est saint. Faire de cette marche nos délices, la recherche de notre cœur, la permanence de nos efforts. Et le premier de nos efforts à faire, c'est l'abandon. S'abandonner entre les mains du Seigneur pour qu'il agisse en nous, pour qu'il accomplisse cette œuvre de sainteté en nous, pour qu'il nous purifie et que nous puissions discerner sa volonté. Paul nous dit en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne faites pas ce que vous voulez, mais laissez agir Dieu dans vos vies. En faisant cela, vous suivrez les sentiers de la justice, les sentiers de la vérité en Jésus-Christ. Comme Dieu est dans la lumière, tous ceux qui marchent dans la lumière sont par extension en communion avec le Père et le Fils. Une chose importante ici dans notre passage que Jean soulève dans cette marche dans la lumière, il dit « Le sang de Christ nous purifie de tout péché. » Dieu agit en nous par son Fils. Il agit en nous afin de grandir dans la sanctification, c'est-à-dire de nous séparer toujours plus du péché et de grandir dans la connaissance de celui qui est parfait. La nécessité pour le chrétien de laisser grandir cette sanctification et de vivre véritablement en communion avec Dieu. Dans la mesure où nous marchons dans la lumière de Christ, de ce fait, l'amour, la sainteté, l'essence même de Dieu se reflètent toujours plus dans nos vies. Marcher et demeurer en Christ, c'est se laisser constamment pénétrer de cette lumière afin que les ténèbres soient vaincues. Après avoir posé la marche dans la lumière comme comme base à la communion avec Dieu, Jean va s'attacher à enseigner la nécessité pour tout chrétien de se débarrasser du péché. Alors il faut distinguer deux choses ici dans notre passage. La marche dans le péché et le péché. La marche dans le péché, c'est celui qui est encore esclave du péché, qui lui est soumis, qui y fait toute sa vie, qui y revient. C'est sa règle de vie. Celui-ci n'est pas de Dieu. Et le péché qui est présent, qui est constant dans la vie, ce péché, nous sommes invités à le combattre. Ce péché, nous sommes invités à ne pas lui être soumis. Ce péché, nous sommes invités à le reconnaître. Et nous avons cette nécessité de le confesser devant Dieu. Nous sommes attaqués de toutes parts, tous les jours, en tant que chrétiens. Nous devons résister. Et le premier des combats auxquels nous devons résister, que nous avons à faire, c'est de nous battre contre le péché. Et Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. En gardant à l'esprit les paroles de Jean, qu'il vient de nous donner tout à l'heure sur la communion véritable avec Dieu et la marche sincère, nous sommes maintenant obligés de considérer la nécessité de nous débarrasser du péché. Et Jésus nous a amenés à considérer cela pour nos vies. Et c'est vrai que parfois dans nos vies, nous pouvons traîner sur nous des péchés. Nous pouvons garder en nous des péchés qui restent en permanence comme une tâche. Pendant des années et des années, nous le gardons en nous. Même nous l'oublions. Pourtant, le Saint-Esprit est là pour mettre le doigt dessus et pour nous dire « ce n'est pas bon ». Mais nous résistons. On ne veut pas le remettre entre les mains de Dieu. On ne reconnaît même pas la nécessité de le remettre. Et pourtant, Jean nous dit « il y a une nécessité de reconnaître et de remettre ce péché devant le Seigneur ». Dire que nous avons atteint un état sans péché, c'est-à-dire sans avoir besoin du sang de Christ pour nous purifier, est une tromperie. Seul Christ nous purifie et nous fait grandir dans la sanctification. Au lieu d'affirmer que nous ne sommes pas pécheurs, nous devons confesser nos péchés au Seigneur. Si nous confessons nos péchés, alors le Seigneur sera fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sang de Christ nous purifie. Il faut que chacun de ses péchés soit reconnu, confessé dans une humble repentance devant Dieu. Il n'y a point d'exception à cette règle. Jean fait donc ressortir l'aveuglement de certains sur leur état et les conditions d'une vraie sainteté. Celui qui marche dans la vérité, Christ, par son Esprit Saint, le convaincra de péché, en faisant ressortir ce qui souille son cœur et sa pensée. Il sera alors poussé à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ afin de reconnaître ses fautes et d'être purifié. Si vous avez quelque chose en vous qui n'est pas pardonné, je prie le Seigneur qu'il ne vous laisse pas tranquille jusqu'à ce que vous en soyez débarrassé. Confesser ses péchés est la marque du vrai croyant, de celui qui marche avec Dieu, qui veut toujours plus ressembler à Christ dans sa vie. L'Esprit de Dieu pousse le croyant véritable à reconnaître ses fautes, à les remettre devant le Seigneur afin d'être purifié. Et ce n'est pas facile. Nous pouvons vivre pendant 20 ans avec des freins, avec des choses qui ne sont pas réglées devant le Seigneur. Et plus on attend, plus c'est une souffrance. Et pourtant, Jean nous dit ici, reconnaissez ce qui est un frein dans votre vie. Mettez-les devant le Seigneur. Il veut que vous en soyez délivrés. Jésus amène les croyants à grandir dans la sainteté, dans toute leur conduite au travers du sang de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi à se maintenir dans la lumière de Dieu. Jésus est celui par qui tout a été accompli. Il a tout accompli à votre place. Il vous invite maintenant à vous approcher de lui, à vous maintenir en lui, à grandir en lui, à vous laisser sanctifier, purifier par le sang, à vous maintenir dans la communion avec Dieu. Jean termine son enseignement sur la marche dans la lumière par des paroles puissantes. Et il n'y va pas par quatre chemins. Lorsque Jean parle, il parle simplement et profondément. Et il dit au chapitre 2, versets 1 et 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Le but de Jean, dans tout son enseignement, c'est d'abord d'inspirer à ses frères une sainte horreur du péché. Je dis cela afin que vous ne péchiez point. Et en effet, marcher dans la lumière, laisser Dieu agir en nous, dans nos vies, grandir dans la connaissance de Christ afin de lui ressembler toujours plus, c'est d'aspirer à la vérité. C'est d'aspirer à la justice, c'est d'aspirer aux fruits de l'Esprit. Le Fils nous a fait connaître le Père. Il nous a fait connaître le Père pour que nous soyons appelés par lui enfants de Dieu. Ce Dieu si puissant, nous pouvons l'appeler Père. Quand vous priez, vous pouvez l'appeler Père, à cause de Christ. Et si nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, soyez-en certains. Nous devons grandir dans la connaissance de celui qui nous a appelés de la mort à la vie. Celui qui a fait de nous des enfants de Dieu. Jean exhorte les chrétiens ici à une vie pure et sainte, la seule qui soit possible à celui qui est né de nouveau. Jean sait toutefois que chaque frère et sœur a besoin de pardon. Et comme il l'a déjà indiqué, le moyen d'obtenir ce pardon, c'est Jésus. Et il revient sur ce moyen pour l'affirmer avec de manière plus complète. Il rappelle avec force la puissance du sacrifice de Jésus dans ce dernier verset. Il dit « Nous avons un défenseur auprès du Père. » Nous avons un défenseur auprès du Père, un avocat. Quelqu'un qu'on peut appeler à l'aide, au secours, et qui intercède auprès de nous, auprès du Père, pardon. Ce défenseur, Jean le nomme Jésus-Christ le juste. C'est bien un terme qui caractérise celui qui est saint, celui qui est sans tache, celui vers lequel on peut se tourner. Jésus-Christ le juste, c'est le titre de Jésus auprès de Dieu. Dieu regarde à lui, à sa justice, non pas à la nôtre. Alors nous pouvons nous approcher de lui. Nous pouvons nous approcher de lui librement. Nous pouvons approcher de lui librement. Christ, nous dit Jean, est une victime expiatoire pour nos péchés. C'est le sacrifice de la croix par lequel Jésus a rendu Dieu propice à nous, hommes pécheurs. Il est une victime expiatoire. Christ, lorsque nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père. Étant réconciliés, nous avons été sauvés par lui. Jean nous parle avec puissance de cet appel que nous avons dans notre vie chrétienne à vivre dans la sainteté. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché et il nous a fait connaître le Père. Nous ne sommes plus maintenant esclaves du péché. Nous sommes maintenant esclaves de la justice de Dieu. Étant affranchis du péché, nous sommes maintenant esclaves de la justice de Dieu, c'est-à-dire libérés une fois pour toutes de l'esclavage du péché pour arriver à la sainteté. Paul nous dit, et je voudrais terminer sur ce verset, en Romains 6, verset 22, il nous dit « Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Ce qui doit être les délices de votre vie, c'est le fruit de la sainteté. Grandir dans la sainteté, pour Dieu. » Et il dit cela, vous avez pour fruit la sainteté et vous avez pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fin la vie éternelle. Ce n'est pas rien. Nous ne sommes pas appelés à mourir, nous sommes appelés à la vie éternelle. Le but ultime, c'est cette vie en Jésus-Christ. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. »